Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI, les piles midi temps universel, 13h ici à Paris.
RFI midi.
Et votre journal, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. À la une, à Gaza, les hôpitaux sont devenus des pièges mortels. Déclaration du chef des droits de l'homme de l'ONU. L'ONU qui vient de publier un rapport sur le sujet après 14 mois de guerre dans l'enclave palestinienne. En Corée du Sud, un mandat d'arrêt est mis contre le président, destitué. C'est une première. Les enquêteurs veulent en savoir plus sur sa tentative échouée d'imposer la loi martiale en début de mois. Dans ce journal également, le gaz russe ne transitera plus par l'Ukraine. Pour rejoindre l'Europe, le président ukrainien refuse de renouveler un contrat avec Moscou, alors que les importations de gaz russe en Europe sont reparties à la hausse en 2024. Explication dans un instant. Et puis, l'heure des vœux d'Emmanuel Macron, le président français prendra la parole à 20h ce soir. Une prise de parole sur fond de crise politique.
Oui, à Gaza, le système de santé est au bord de l'effondrement. C'est ce que dit aujourd'hui l'ONU.
Oui, dans un rapport publié aujourd'hui, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme pointe du doigt les attaques israéliennes depuis octobre 2023. Les hôpitaux de Gaza sont devenus des pièges mortels, précise l'ONU. La situation sanitaire est catastrophique et particulièrement dans le nord de l'enclave palestinienne. Michel Paul est avec nous en direct de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
L'armée israélienne avait indiqué samedi à l'issue d'un raid lancé vendredi avoir arrêté le directeur de l'hôpital de Kamal Adwan. Israël le soupçonne en fait d'être un militant du Hamas.
Oui Juliette, appréhendé vendredi dernier par l'armée israélienne, on est toujours sans nouvelles du docteur Hossam Abou Safieh, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. Un porte-parole militaire israélien s'est contenté de confirmer son arrestation. Et selon des sources israéliennes, il se trouverait à Sdetaïman, un centre de détention surnommé le Guantanamo israélien en raison des violations des droits de l'homme qui y seraient pratiquées. L'Organisation mondiale de la santé demande la libération immédiate du docteur Abou Safieh. L'OMS et d'autres agences de l'ONU lancent un nouveau cri d'alarme sur la situation sanitaire à Gaza à la suite des opérations de l'armée israélienne et en particulier dans le nord de l'enclave palestinienne. En fait, il ne reste plus qu'un seul hôpital partiellement opérationnel dans cette région. Il s'agit de l'hôpital indonésien. Mais une équipe de l'OMS et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui s'est rendue sur place a constaté que l'établissement n'avait ni électricité ni eau courante et que son système d'évacuation des eaux usées était endommagé.
Les précisions à Jérusalem de notre correspondant Michel Paul et en lien avec cette situation humanitaire, des chiffres. Depuis octobre 2023, selon le Hamas, plus de 45 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza.
Et on reviendra sur la situation du territoire palestinien après 14 mois de guerre avec notre invité, après le journal, Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Toujours au Proche-Orient, au Yémen, les rebelles houthis revendiquent deux attaques de missiles contre Israël.
Le premier visant l'aéroport de Ben Gurion près de Tel Aviv. Le deuxième, une centrale électrique au sud de Jérusalem, selon un porte-parole militaire. De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir intercepté un missile tiré à partir du Yémen avant de pénétrer sur le territoire aujourd'hui.
C'est une première en Corée du Sud pour un chef d'État. Un mandat d'arrêt a été émis aujourd'hui contre le président destitué Yoon Suk-yeol.
Il a été suspendu de ses fonctions après que l'Assemblée nationale a voté sa destitution mi-décembre. L'objectif de ce mandat d'arrêt est de forcer l'ancien chef d'État à comparaître devant les enquêteurs, lui qui refuse de se présenter devant ces derniers. Les enquêteurs veulent l'interroger sur sa tentative échouée d'imposer la loi martiale dans le pays au début du mois de décembre. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Juliette.
Ce mandat d'arrêt augmente la pression sur Yoon Suk-yeol.
Oui, les enquêteurs ont jusqu'au 6 janvier pour appliquer ce mandat d'arrêt qui permet la détention de Yoon Suk-yeol durant 48 heures. Mais l'avocat du président déchu conteste déjà la légalité de cette décision. Il estime que le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités en charge de l'affaire n'est pas compétent et l'équipe juridique du président va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle.
Et est-ce qu'on peut imaginer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, une arrestation de l'ex-président ?
Ce n'est pas certain car pour l'instant, il est seulement suspendu de ses fonctions et donc toujours protégé par la garde présidentielle. Celle-ci assure qu'elle agira dans le respect des procédures légales. Pourtant, à trois reprises, les services de sécurité du président ont fait obstruction à des perquisitions, elle aussi dans le cadre de l'enquête pour rébellion qui vise le président déchu. Alors que se passera-t-il réellement si les enquêteurs se rendent à la résidence de Yoon Suk-yeol pour l'arrêter ? En tout cas, l'hypothèse mobilise disent les ultra-conservateurs. Ce mardi, plusieurs centaines de militants se sont rendus devant la résidence du président déchu pour exprimer leur soutien.
Les précisions de Nicolas Roca. Toujours en Corée du Sud, deux jours après le crash d'un avion à l'atterrissage dans l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest du pays, on compte 179 morts sur 181 personnes à bord. De premières dépouilles de victimes du pire crash sur le sol sud-coréen ont été remises aux familles aujourd'hui. En parallèle, les autorités examinent la conformité du mur de béton de l'aéroport. L'appareil de la compagnie Jeju Air, en provenance de Bangkok, s'est fracassé sur le mur en question.
En Corée du Nord, Kim Jong-un a présenté ses vœux à Vladimir Poutine à l'occasion d'une lettre.
Dans sa missive, Kim Jong-un a qualifié le président russe comme son plus cher ami et camarade, selon l'agence de presse nord-coréenne. Il a également exprimé, je cite, sa volonté de concevoir et de faire avancer de nouveaux projets. Pour rappel, Charlotte, la Russie et la Corée du Nord ont renforcé leurs relations politiques, militaires et culturelles depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Un traité historique de défense mutuelle entre Pyongyang et Moscou a été signé en juin. Il est entré en vigueur il y a peu et prévoit une aide militaire immédiate en cas d'agression armée par un pays tiers.
La guerre en Ukraine a justement vu débarquer des soldats nord-coréens aux côtés des troupes russes cette année.
Il y a quelques jours, les États-Unis recensaient des centaines de morts et blessés nord-coréens en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jusqu'à 3000 hommes, mais ce sont des nombres difficilement vérifiables. Et alors que le conflit se poursuit aujourd'hui, mardi, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir repoussé une attaque aérienne russe à Kiev et dans le nord du pays. Du côté des forces russes, selon une analyse de l'AFP, les troupes de Moscou ont avancé de près de 4000 km² en Ukraine en 2024.
Et en ce dernier jour de l'année, l'horloge tourne aussi pour le gaz russe.
À partir de ce soir minuit, si aucun accord n'est trouvé, plus un mètre cube de gaz de la Russie ne transitera par l'Ukraine pour rejoindre l'Europe. Le président ukrainien refuse de renouveler ce contrat entre Kiev et Moscou. Le gaz russe a continué de transiter par ce pays pour arriver sur le sol européen, malgré les sanctions contre Moscou depuis l'invasion russe en Ukraine. Bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Juliette.
Cette année, les importations de gaz russe en Europe sont même reparties à la hausse.
Oui, une dynamique qui est bien réelle. Les Européens ont augmenté leur consommation de gaz russe ces derniers mois. Si en 2023, ces importations étaient de 14%, elles ont atteint en moyenne les 18% cette année. Plusieurs explications à ce phénomène. D'abord, le prix. Cet hydrocarbure russe est très bon marché, bien moins cher que le gaz naturel liquéfié américain, par exemple. Ensuite, deux États européens notamment tirent cette consommation de gaz russe vers le haut. La Slovaquie, elle en est ultra dépendante. Il en représente à peu près 90% de ses importations. Dépendance qui s'explique d'une part par sa situation géographique, mais aussi par la proximité du gouvernement slovaque avec Vladimir Poutine. Situation peu ou prou équivalente pour la Moldavie qui dépend à 70% du gaz russe. Pour autant, cette tendance est paradoxale puisque Bruxelles s'est fixé une date butoir pour la fin de la consommation de gaz russe en Europe en 2027, autrement dit Juliette, demain.
Les précisions de Stéphane Geneste du service économie de RFI.
Direction Mayotte, le Premier ministre était en visite dans l'archipel hier accompagné de quatre de ses ministres, soit 15 jours après le passage du cyclone Chido. François Bayrou a détaillé les mesures de son plan appelé Mayotte debout, alors que sur place la question des soins est urgente.
L'hôpital de Mamoudzou a été largement endommagé. Il est renforcé depuis quelques jours par un hôpital de campagne, sauf qu'il n'a pas pour objectif de rester longtemps en place. Ce n'est qu'une réponse provisoire. Le reportage de Lola Fourmi.
Devant les grandes tentes blanches qui font office de blocs et de salles de consultation, François Bayrou est revenu sur le bilan du cyclone Chido. Officiellement 39 morts, 4000 blessés, mais il maintient qu'il n'y a pas de milliers de morts.
Quelques dizaines ou quelques deux centaines d'êtres, c'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve.
À l'extérieur, des dizaines de personnes attendent. L'hôpital de campagne a une capacité de 100 patients par jour, mais en reçoit plus de 300. Jama Joual se fait de l'ombre avec une branche. Il attend là depuis plus de 3 heures.
Le jour du Chido, je suis tombé. Après, je me suis cogné la main comme ça. Depuis ce jour-là, je me sens mal. Donc je viens pour voir si je ne suis pas cassé la main ou quoi. Voilà.
Daniela, une malgache qui vit ici depuis 3 ans, accompagne sa fille Hortensia, 7 ans, dont le bras est littéralement déformé par une fracture. Ce n'est pas la visite des officiels qui l'intéresse.
Ce que j'attends là, c'est le médecin. Le ministre, là, je ne sais plus quoi dire.
On est venu pour voir un spécialiste chirurgie. Mais on ne sait pas si on va le reprendre ou pas.
même si ce n'est pas acceptable, c'est ce que je vois, n'ont pas les choix.
Le CHU de Mayotte n'est fonctionnel qu'à 60%. Il faut d'urgence réparer le toit. Mais en attendant, l'hôpital de campagne n'a pas vocation à durer. Lola Fourmi, Mayotte, RFI.
Et la dévastation de Mayotte par le cyclone Chido, tout comme la dissolution de l'Assemblée nationale qui a provoqué une crise politique, ont marqué cette année 2024.
Emmanuel Macron va devoir trouver les mots justes ce soir. On en parle avec Valérie Gasse.
En regardant dans le rétroviseur, Emmanuel Macron aura certainement la tentation de s'attarder sur les deux moments qui ont fédéré les Français, les Jeux Olympiques et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Deux parenthèses dans une année politique qui a ressemblé à un cauchemar pour le président de la République. Élections européennes perdues par son camp et surtout remportées par le RN, dissolution qui a viré au fiasco avec une censure à la clé et la succession de quatre premiers ministres à Matignon. Emmanuel Macron en ressort essoré politiquement et sans certitude que la situation s'améliore dans les prochains mois. Des difficultés sur lesquelles le président de la République veut, selon son entourage, revenir le plus lucidement possible, avec un objectif assez habituel dans cet exercice convenu des vœux, fixer quelques grands défis et perspectives pour 2025 dans sa nouvelle posture de président qui préside mais n'a plus les moyens de gouverner. Un parlementaire renaissance veut avoir confiance en la capacité d'Emmanuel Macron à prendre de la hauteur, fixer les enjeux et montrer les dangers, avec un passage obligé, parler du drame de Mayotte et de sa reconstruction.
Valérie Gasse au Japon, la nouvelle année approche à grands pas. Il est déjà là 21h12 presque dans l'archipel. Mais cette année, le réveillon sera très encadré.
Par crainte de bousculade et de débordement, toutes les festivités ont été annulées dans la capitale. Alors qu'en pensent les habitants de Tokyo ? On en parle avec Bruno Duval.
En 2024, pour la deuxième année consécutive, le taux de délinquance et de criminalité a légèrement augmenté au Japon. Dès lors, pour cet officier de police, ces restrictions mises à la fête sont parfaitement légitimes.
Les jeunes qui boivent, qui fument, qui draguent et qui traînent dans les rues jusque tard le soir finissent souvent par basculer dans la délinquance. Donc face à de telles incivilités, la tolérance zéro est de mise.
À Shibuya et Shinjuku, où chaque année des centaines de milliers de fêtards se réunissaient le soir du 31 décembre, les avis sont partagés.
Les gens ivres morts, avachis sur les trottoirs, ce n'était vraiment plus possible.
C'est bien pour nous, les petits commerçants. Ça va rehausser l'image du quartier qui s'était beaucoup dégradé.
C'est sans doute plus prudent, mais c'est triste. Ça casse l'ambiance.
Consigne ou pas, mes amis et moi, on va faire la fête toute la nuit à Shibuya. On n'a pas le droit d'empêcher les jeunes de s'amuser.
Un ton plus haut, les réseaux sociaux dénoncent une dérive liberticide, autoritaire, à la nord-coréenne. Bienvenue à Pyongyang. Dans l'archipel, l'expression revient en boucle sur la plateforme X et sur Nico Nico Doga, le YouTube nippon. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
Et l'année 2024 a été très chargée. Guerre, crise climatique, injustice. Alors on va terminer sur une note plus positive avec Carlotta Morteo. Bonjour.
Bonjour.
Alors quelles sont les bonnes nouvelles de 2024 ?
Bon, j'ai du mal à ne pas évoquer la bouille de Moudeng. Vous savez, ce bébé hippopotame né dans un zoo thaïlandais devenu une star des réseaux sociaux. Ces pitreries ont fait chavirer les cœurs de millions d'internautes. Mais plus sérieusement, réjouissons-nous toujours du succès de la vaccination dans le monde. 84% des enfants sont aujourd'hui protégés contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la rougeole. Il n'était que 5% en 1974, il y a 50 ans tout pile, quand l'ONU a lancé son programme mondial de vaccination.
Et de nouveaux médicaments découverts cette année pourraient bien être tout aussi révolutionnaires.
Oui, l'antiviral lenacapavir, par exemple, qui bloque à 100% les cas de contagion du sida, avec seulement 2 injections par an. Il y a aussi de nouveaux traitements contre le cancer et la schizophrénie qui sont très prometteurs. Sur le front climatique, notons que pour la première fois, l'Union européenne a produit plus d'électricité avec de l'éolien et du solaire qu'avec des combustibles fossiles, que des chercheurs japonais ont développé un matériau qui se dissout dans l'eau de mer et qui pourrait remplacer le plastique, et que les Yurok, une tribu d'Amérindiens de Californie, ont eu gain de cause. 4 barrages ont été démolis sur leur rivière sacrée pour que les saumons puissent la remonter. Quant à l'égalité homme-femme, citons l'Espagne en exemple. En 2024, les papas ont eu droit à un congé parental aussi long que les mamans, 4 mois. Et la bonne nouvelle, c'est que 91% d'entre eux le prennent.
Merci pour ces bonnes nouvelles de 2024, Carlotta Morteo. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Et vous avez oublié les JO, les Jeux Olympiques, un grand moment aussi d'enthousiasme international, ce qui nous mène tout droit vers les stades. Les sports avec vous, Baptiste Leduc, et avec du foot. Le mercato des joueurs ne s'ouvre que demain, mais celui des entraîneurs bat déjà son plein.
Avec du mouvement chez un poids lourd européen, on vous en parlait hier, le Milan AC a remercié Paulo Fonseca et il a été aussitôt remplacé par son compatriote portugais Sergio Conceição, libre depuis son départ du FC Porto. Une arrivée qui doit permettre à un Milan bien trop irrégulier cette saison de retrouver de la consistance, Sofiane Amazian.
L'idylle n'aura duré que 6 mois à peine. Paulo Fonseca, apôtre du beau jeu, a perdu de son aura après son départ de Lille l'été dernier. Déjà en difficulté lorsqu'il avait pris la tête de l'AS Rome en 2019, le technicien de 51 ans voulait passer un cap à Milan, une équipe qui joue le titre et la Ligue des Champions chaque saison. Mais les ennuis se sont accumulés. En quelques semaines, panne de résultats, brouille avec certains cadres, dont le français Théo Hernandez ou le portugais Rafael Leao. Seulement 12 victoires en 24 matchs et une 8e place au classement, inquiétante, à 14 points du leader l'Atalanta Bergame. Le nul concédé ce week-end contre la Roma et l'exclusion de Fonseca pour excès de colère a accéléré l'arrivée d'un nouvel homme fort, Sergio Conceição, 50 ans, parti libre de Porto après 7 années de bons et loyaux services marqués par 11 titres remportés, dont 3 championnats et 2 quarts de finale de Ligue des Champions disputés en 2019 et en 2021. Un sacré CV qui a plu aux dirigeants lombards en besoin de résultats rapide, cela tombe bien. Conceição est réputé très bon meneur d'hommes. La réponse, dans quelques jours, face à la Juventus Turin, Sergio Conceição, pour son premier match, fera face à son fils Francisco, joueur du club turinois.
Des retrouvailles père-fils qui auront lieu le 3 janvier en demi-finale de la Supercoupe d'Italie.
En tennis, Novak Djokovic retrouvait la compétition ce mardi en Australie. Retour gagnant pour le Serbe.
Il avait fait une croix sur la fin de saison pour repartir de plus belle. Victoire tranquille pour Djoko au premier tour du tournoi ATP de Brisbane. 6-3-6-3 face au local Rinki Hijikata. Au deuxième tour, il retrouvera un Français, Gaël Monfils, qui s'est imposé en 3 manches contre Nishesh Basavaredi. Ce sera compliqué pour Monfils, il n'a jamais gagné contre Djokovic en 19 confrontations.
Le basket, pour terminer, il a fêté ses 40 ans hier. C'est LeBron James, il se sent toujours au top.
Le joueur des Los Angeles Lakers, 4 fois champion NBA, en est à sa 22e saison, c'est colossal. Et si certains commencent à soupçonner le déclin de la légende, le King James ne s'inquiète pas pour ses jambes ni sa tête, même s'il sent tout de même le poids des années.
Se réveiller et se dire « Oh mince, j'ai 40 ans », ça fait drôle. C'est amusant de constater que je joue encore au plus haut niveau. Je reste un jeune homme, mais je suis vieux par rapport au nombre d'années passées dans le basket. Je repense à mon arrivée dans la Ligue, j'étais un jeune de 18 ans à peine. Et maintenant, vous avez devant vous une personne de 40 ans en NBA depuis 22 saisons et qui a un fils de 20 ans qui joue aussi dans la Ligue. Pour être honnête, je pourrais jouer encore 5 à 7 ans si je le voulais, mais je ne vais pas le faire.
Et s'il continue au moins la saison prochaine, LeBron James deviendrait le premier joueur de l'histoire à prendre part à 23 campagnes en NBA. Et ce mardi, ses Lakers affrontent Cleveland, sa toute première franchise, celle de l'Ohio où il est né. Un joli clin d'œil du destin.
Alors, bon anniversaire à LeBron James. J'ajoute les rétros sportives de l'année aujourd'hui consacrées à un duo, les frères Lebrun. C'est à retrouver comme tous les jours sur RFI.fr. Merci à vous, Baptiste Leduc. On en parlait dans le journal, le système de santé à Gaza au bord de l'effondrement total, mis en garde aujourd'hui du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, qui estime que les hôpitaux du territoire palestinien sont devenus des pièges mortels. Cela fait 14 mois maintenant que la bande de Gaza est ravagée par le conflit entre Israël et le Hamas, plus de 45 000 morts depuis le 7 octobre 2023. Un désastre humanitaire 2024, la guerre sans fin à Gaza, on en parle avec vous. Bonjour Agnès Levallois.
Bonjour.
Vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po. Vous avez également écrit le livre noir de Gaza aux éditions du Seuil. Le CICR va dans le même sens que l'ONU. Il dit que le système sanitaire dans le nord de Gaza a été anéanti, les hôpitaux complètement inopérants. Pourquoi les hôpitaux de Gaza sont-ils visés par les raids israéliens? Quelle est la stratégie en fait?
En fait, la stratégie d'Israël en détruisant absolument tous les centres de soins est de faire en sorte que ce territoire soit de moins en moins vivable pour la population de Gaza. On voit bien que la stratégie vise à rendre ce territoire, au premier sens du terme, invivable. Et donc, si vous n'avez plus aucun centre de soins, plus aucun centre médical, eh bien, la vie n'y est plus possible. Et le bilan que vous avez donné des victimes, qui est un bilan extrêmement lourd, eh bien, est un bilan non seulement des personnes qui meurent sous les bombardements, mais aussi maintenant des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont plus accès aux soins, parce qu'il n'y a plus aucune structure médicale, pratiquement plus aucune, capable eh bien, d'assurer les soins les plus élémentaires. Et ça, ça, c'est le cas en particulier dans le nord de la bande de Gaza, où on a de plus en plus le sentiment, enfin qui est plus qu'un sentiment, que cet endroit doit être vidé de sa population pour que Israël s'y établisse et fasse cette fameuse zone tampon entre la bande de Gaza et le territoire israélien.
Vous évoquez le nord, effectivement, on se souvient d'une vidéo d'une responsable de l'UNRWA tournée en novembre dans Gazaville, complètement apocalyptique, il n'y avait plus rien, tous les bâtiments détruits. Vous parlez dans votre livre d'une déshumanisation en cours à Gaza.
Oui, c'est exactement le terme qui vient lorsque l'on travaille sur ce qui se passe dans la bande de Gaza maintenant depuis des mois et des mois, où on voit que, et ça avait, c'est un phénomène qui avait commencé avant le 7 octobre, où l'idée c'était de rendre les Palestiniens invisibles aux yeux des Israéliens, et une fois qu'ils étaient devenus invisibles, eh bien, ça n'était plus des êtres humains, d'où le processus de déshumanisation dont on parle. Si vous ne voyez pas l'autre, le Palestinien, eh bien, vous pouvez détruire la bande de Gaza, peu importe, puisque vous ne le voyez pas, donc ce ne sont plus des êtres humains. Et je rappelle cette phrase terrible du ministre de la Défense israélien au lendemain des attentats, du massacre du 7 octobre terrible, qui a parlé d'animaux humains. Mmh. Et tout est résumé dans cette expression. Et à partir de là, eh bien, Israël bombarde, continue à détruire une bande de Gaza qui est déjà complètement ravagée, en continuant augmentant le nombre de victimes. Mais pourquoi ? Avec quel objectif ? Si ce n'est de vider ce territoire de ses habitants.
Gaza coupée du monde, des confrères palestiniens continuent d'informer au péril de leur vie, mais il n'y a pas de journalistes étrangers. Agnès Levallois, il y a eu une seule trêve, c'était une trêve d'une semaine en novembre 2023 qui a permis la libération d'une centaine d'otages israéliens. Est-ce que vous avez un petit espoir avec les négociations en cours pour un cessez-le-feu en 2025 ?
Écoutez, les espoirs sont très ténus, je n'y crois pas beaucoup, puisque ça fait maintenant des mois et des mois que régulièrement on nous dit que des négociations ont lieu et qu'elles sont sur le point d'aboutir et que finalement elles n'aboutissent pas. Il faut bien comprendre que Netanyahou ne veut absolument pas d'un cessez-le-feu, puisque tant qu'il y a la guerre, il échappe lui-même à la mise en place de la fameuse enquête qui devrait donner les responsabilités aussi de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il ne s'agit pas de remettre en question la responsabilité du Hamas, évidemment. Elle est entière et absolue, mais il y a eu des failles côté israélien et Netanyahou en est redevable et qu'il ne veut absolument pas que ces enquêtes aient lieu. Donc il est dans une stratégie, me semble-t-il, de fuite en avant, de continuer à bombarder en sachant de toute façon qu'il est soutenu par son allié américain et que tant qu'il est dans cette dynamique, si je puis dire, eh bien, il se sent relativement à l'abri, puisque, et ça c'est un élément important je pense à rappeler, c'est qu'une grande partie de la société israélienne le soutient ce gouvernement dans la guerre qui est menée à Gaza.
Malgré des manifestations quasiment toutes les semaines pour les libérations d'otages.
Ce sont deux choses différentes. Il y a des manifestations pour obtenir la libération des otages, et ça, il y a une mobilisation d'une partie de la société, mais la majorité de cette population israélienne est derrière Netanyahou dans la guerre contre les Palestiniens. Et donc, il faut bien dissocier ce qui relève de la guerre à Gaza contre les Palestiniens de la volonté des Israéliens, d'une partie d'entre eux, d'obtenir évidemment la libération des otages israéliens retenus par le Hamas.
Vous dites que Benjamin Netanyahou ne souhaite pas, au fond, un cessez-le-feu. L'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump au pouvoir, là en janvier, ça ne va pas forcément aller dans le sens d'une trêve, d'un cessez-le-feu non plus.
Alors ça pourrait, parce que Trump n'aime pas la guerre, il a déjà dit clairement qu'il fallait que cette guerre cesse, donc il est possible qu'avec l'arrivée de Trump, un cessez-le-feu soit négocié, d'où la volonté de Netanyahou avant la date, eh bien de continuer les bombardements qui ne cessent d'avoir lieu avec le nombre de victimes qui augmente tous les jours. Donc il y a sûrement une recrudescence aussi de la part d'Israël en attendant cette date du 20 janvier, donc de faire le maximum, si je puis dire, pour détruire la bombardement bande de Gaza. Donc, il est possible d'arriver à un accord, mais dont la contrepartie risque d'être très lourde, puisque la contrepartie risquerait d'obtenir pour Israël l'annexion pure et simple de la Cisjordanie. Il risque d'y avoir un deal de cette nature-là qui sera terrible pour les Palestiniens.
14 mois de guerre à Gaza. Merci à vous, Agnès Levallois, vice-présidente, je le rappelle, de l'Institut de recherche et d'études de Méditerranée-Moyen-Orient. Je rappelle également votre ouvrage, Le Livre Noir de Gaza, s'est publié aux éditions du Seuil Gaza, dont on continue de parler, évidemment, et cela malgré les autres bouleversements du Moyen-Orient en Syrie et au Liban. On évoquait à l'instant les très difficiles et laborieuses discussions pour une trêve entre Israël et le Hamas, alors qu'entre l'État hébreu et le Hezbollah libanais, c'est très fragile, mais le cessez-le-feu est en vigueur depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, environ 60 000 personnes avaient quitté leur maison au plus fort du bras de fer. Malgré la trêve en cours, beaucoup ne sont pas prêts pourtant à rentrer chez eux, méfiants avec la crainte d'une reprise des combats. Reportage en Galilée, Pierre-Olivier.
Dans l'extrême nord d'Israël, le moshav de Shar Yalchouv a des allures de village fantôme. Une petite communauté où vivaient 600 personnes avant la guerre, mais plus d'une sur deux a fui les combats. Au milieu des maisons, aux volets fermés, Guidi Harari, lui, n'est jamais parti. Cet ancien colonel nous accueille chez lui autour d'un café.
Donc là, Guidi a sorti des cartes qui sont dans un album et qu'il nous montre.
Là, c'est Kiryat Shmona, la grande ville du coin. Et nous sommes ici à Shar Yalchouv. Et à 2 kilomètres, c'est la frontière avec le Liban. On est vraiment à la périphérie d'Israël.
Ce moshav est toujours officiellement une zone évacuée. Alors, Guidi Harari prépare le futur retour des habitants.
Par exemple, je coordonne une équipe de bénévoles qui prépare les maisons des personnes âgées qui sont parties. Ça veut dire s'occuper du jardin, repeindre, ranger, nettoyer, tout ce qui n'a pas été fait depuis plus d'un an.
Qu'est-ce qui manque pour que les 300 habitants du moshav qui sont partis reviennent ?
Alors d'abord, il faudrait que les écoles rouvrent. Et puis, il n'y a aucune activité économique, ce n'est pas très attirant. Les magasins sont fermés, les usines aussi. Les gens ont besoin de pouvoir reprendre leur travail pour rentrer, et ce n'est pas le cas.
Mais d'après Guidi Harari, certains habitants ne reviendront même jamais.
La plupart des familles évacuées n'avaient jamais vécu ailleurs qu'ici. Dans les grandes villes, elles ont découvert qu'il y a de bonnes écoles, des bons médecins, que les salaires sont meilleurs. 15% ne reviendront pas.
Justement, parmi ceux qui hésitent à revenir dans le nord d'Israël, il y a Ren Blum, une mère de famille. Alors nous allons contacter Ren par WhatsApp. Elle est logée avec ses enfants par le gouvernement dans un hôtel juste à côté de Tel Aviv.
Ce cessez-le-feu ne tiendra pas et je ne veux pas mettre mes enfants en danger. Donc pour l'instant, rentrer n'est pas à l'ordre du jour. Et même si je suis très patriote, j'ai décidé de rester là pour offrir un meilleur avenir à mes enfants.
Et puis il y a ceux, une minorité, qui sont revenus, comme Raed Ahmed, qui habite à 4 km de la frontière libanaise, dans le village druze d'Ourfesh.
Maintenant, c'est devenu calme. Calme, mais pas sûr. Il suffit d'une étincelle pour que ça reparte comme après le 7 octobre 2023.
Pour l'instant, le gouvernement israélien continue de subventionner les personnes déplacées en leur payant l'hôtel. Mais cela s'arrêtera un jour. Nombreux sont ceux qui évoquent la date du 1er février prochain. Pierre-Olivier, Shar Yalchouv et Ourfesh, RFI.
Et sur RFI, en ce 31 décembre 2024, à suivre Afrique Midi dans une petite minute. À tout de suite.
Cette semaine, RFI vous invite tous les jours au concert.
De loin la femme à qui j'ai le plus menti, à qui j'ai dû cacher les plus grosses dingueries. Mais j'ai grandi pour mieux cacher.
Vivez ou revivez les meilleurs moments des concerts enregistrés en 2024 par RFI. Retrouvez ce mardi le rappeur français Luigi.
C'est tout à l'heure, à 20h10 TU.
Ton grand frère, je veux qu'on quitte l'enfer. Tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie. Demain, enseignants apprenant quelles sont les nouvelles dimensions de l'éducation.
Que faut-il apprendre à l'école aujourd'hui ? Jeudi, émission spéciale double culture et recherche d'emploi. Avantages ou désavantages ? Conseils aux jeunes diplômés. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU sur RFI.